Bonjour à tous, bienvenue. Il y a déjà 23 personnes dans la chatroom. On va laisser un peu du temps aux gens de nous rejoindre ce matin. Salut Tom Tom, c'est bon, je suis prêt. Bonjour tout le monde. Eh bien, bonjour à toi et bienvenue. Salut Toto Cool, salut Samuel, tu me confirmes qu'on me reçoit 5 sur 5. Merci beaucoup. Salut Mosaïque, on devrait mieux m'entendre et avoir un meilleur son que ce qu'on a eu lundi, puisque lundi on a fait la captation du son via les micros de l'ordinateur de Jérôme, mais a priori les micros de la dernière génération de MacBook Pro n'est pas génial. Voilà, donc là comme j'ai un micro cravate comme vous pouvez le voir, ça devrait mieux se passer. Salut Mosaïque, salut Alexis, salut Cutlord, salut Davis, salut Yves, salut Tic Takumi, salut Kevin, salut Technisavoie, salut Émilie Marie, les Origami Thomas, Sylvain, Philippe, Edmond Soun, Olivier, Cascacorne. Cascacorne, ok. Salut à tous, j'adore lire vos pseudos à chaque fois. Salut Mehdi, bienvenue. Voilà, donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai oublié de faire les fameux 5 tipeurs qu'on doit remercier chaque matin. C'est ballot. Je sais pas si Jérôme l'a fait. Si, si, je l'ai fait. Je dis que je l'ai pas fait, mais en fait, je l'ai fait en plus. Donc, ce matin, pour l'épisode 905, qui on remercie? Eh ben, on remercie des tipeurs qui nous ont soutenus à un moment donné. Voilà. Donc, un grand merci à vous cinq. Et ce matin, c'est Kevin, Lionel44, Da Silva, Mae et Alex Vista. Un grand, grand merci à vous cinq de nous soutenir ou de nous avoir soutenus à un moment donné. Vous savez combien c'est important de pouvoir permettre, de soutenir l'effort de production de Naotech, la chair humaine utilisée pour produire ces émissions entre Jérôme, Karina et les autres. Donc voilà, ça nous permet de continuer à développer la production de la chaîne. Un grand merci à ceux qui nous soutiennent. Évidemment, il y a plein d'autres manières de nous soutenir. Hein. Vous le savez, que ce soit en mettant des likes sur les vidéos que vous aimez, en les partageant à vos proches qui seraient susceptibles d'aimer, en parlant autour de vous, en faisant du bouche à oreille, en utilisant les liens d'affiliation, évidemment, ça ne vous coûte pas un sou et nous, ça nous aide vraiment. Bref, voilà, selon vos possibilités, il y a plein de manières différentes de nous aider. Donc un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, évidemment. Voilà. Et donc, de quoi va-t-on parler? Il faut que je reprenne un peu le rythme. Hein. Après un mois d'arrêt de TechScope, on est un peu rouillé avec Jérôme. Donc, j'espère que vous allez être indulgents pour la reprise. Là, il va falloir qu'on reprenne les bonnes habitudes. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin, à avoir ma petite dose d'énergie et de bonne humeur en votre compagnie. C'est toujours un plaisir. La reprise est dure, ça part aux oubliettes. Bientôt l'épisode 1000. Pas encore, Edmond Soun. Presque, mais pas encore quand même. On a un petit peu de temps. Pas beaucoup, mais un petit peu. Puisqu'il nous reste 95 épisodes. Heureuse de vous retrouver, bah, nous aussi Hélène, on est ravis de vous retrouver. Salut Laurent. Et donc, de quoi va-t-on parler ce matin? Alors je vous rassure, on va pas suivre la ligne éditoriale du lundi 1er avril, hein, chose qu'on a fait peur à certaines personnes ce lundi. Rassurez-vous, on va retourner sur des articles sages ou pas de tech, mais vraiment liés à la tech. Et ce matin, on va faire une minute de silence pour Google+. Voilà, c'était, ça y est, le 2 avril, c'était le départ et la fin de Google+. J'espère que vous avez sauvegardé vos données. Sinon, bah, il va falloir vite vous dépêcher. Et puis on parlera d'un débat qui a lieu, c'est une décision de justice qui a été rendue où les sites Sci-Hub et LibGen qui ont pour but de mettre à disposition gratuitement des contenus de publications scientifiques qui sont normalement payants, ils les mettent à disposition gratuitement, évidemment c'est illégale, mais une décision en plus de justice a ordonné le blocage de ces sites internet par les FAI, par une certaine liste de FAI. On verra lesquels aujourd'hui et on verra pourquoi cette décision de justice porte à polémique et si elle fait sens ou pas. Voilà. Donc ça va un peu plus loin que juste du contenu piraté mis à disposition. Salut 2082 Clos et un grand merci pour ton soutien. Bonjour et bonne reprise. Merci beaucoup. Voilà, et on continuera avec Twitter. Twitter qui face comment dire, aux mesures qu'ils ont prises un petit peu pour contrôler le contenu présent sur la plateforme, a déclenché évidemment des vagues de protestations. Hein, quand on bloque votre compte, eh ben, vous allez vouloir potentiellement expliquer faire une réclamation, hein, comme quoi votre compte ne devrait pas être bloqué. Eh ben, avant, c'était un petit peu compliqué. Il fallait un peu aller sur le site, trouver le formulaire, etc. Là, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus simple puisque ça sera directement accessible dans l'application. On verra ensemble exactement comment ça va se passer. Donc Twitter, en tout cas, il bosse dur pour pouvoir voilà, répondre un petit peu aux plaintes qui se sont passées suite à la régulation un peu plus soutenue qui se passe sur la plateforme. Et puis, on parlera d'e-commerce vocal. voilà, donc évidemment, quand on dit ça, on pense à Amazon et Alexa. Voilà, avec son assistant vocal et sa plateforme marchande qui fait des envieux. Et ben, hein, maintenant, ils vont avoir un concurrent de taille, puisque Google s'associe avec Walmart pour permettre justement de faire ses courses avec les assistants vocal de Google, Google Assistant, et donc potentiellement est disponible un petit peu sur beaucoup, beaucoup de plateformes, à contrario d'Alexa. Voilà, donc on verra, ça sera intéressant de voir comment la compétition s'arme contre Amazon. Et puis, on parlera de Nantes. On ira passer un petit peu de temps à Nantes ce matin, prendre des nouvelles de la ville. Et a priori, la ville apprécie pas trop qu'on propose et qu'on mette à disposition en free floating des trottinettes sans en avoir parlé à la mairie. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé ce week-end. En gros, il y a, voilà, une Wind, la société Wind, qui a mis dans la ville à disposition des trottinettes et puis illico presto, elles ont été confisquées par la mairie de Nantes en disant bah, ils sont bien gentils, mais à un moment donné, ils nous ont jamais contactés pour ce projet de mise à disposition de trottinettes. Donc ça s'est fait sans accord. Voilà, ni une ni deux, ça a été confisqué. Et puis on terminera avec, on parlera de caca dans l'espace. Eh ben non, c'est pas une blague, hein. C'était dans les hashtags du titre de l'émission ce matin. C'était pas une blague, c'était pas un jeu de mots non plus. On verra si les bactéries présentes dans nos déjections et qui ont été gentiment déposées sur la Lune au cours de différents voyages, eh ben ont réussi à survivre. Voilà, c'est la nouvelle question scientifique de cette fin de matinée, enfin de cette fin d'émission plutôt, parce qu'on est en début de matinée. Voilà. Voilà pour le sommaire. J'espère que le programme vous plaît parce que j'en ai pas d'autres. Voilà. Salut Alexis, c'était juste pour l'ambiance du matin, mais je dois partir. Bonne journée à tous et à toi Marion. Eh ben écoute, j'espère que tu as pris ta dose de bonne humeur et bon courage pour ta journée et à bientôt. Je suis d'accord, Cascacorne, je ne sais pas comment je ferai aussi pour mes rapports sans Libgen. Ben justement, on va pouvoir en discuter et prendre un petit peu la température dans la chatroom sur ce second sujet d'émission ce matin. Donc patientez. On va d'abord quand même faire une petite minute ou peut-être 30 secondes de silence pour Google+. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait 1 minute ou 30 secondes ou moins, mais voilà, RIP Google+, ça y est, c'est officiel, c'est acté. Les comptes utilisateurs, voilà, grand public de Google+, ne sont plus accessibles depuis le 2 avril 2017. En effet, Techni Savoir, ils existent toujours pour les pros, hein. C'est pour ça que j'ai précisé les comptes grand public de Google+ ne sont plus accessibles depuis hier. Voilà, donc c'était évidemment une décision qui avait été prise le 10 décembre 2018, hein. On en avait parlé justement. RIP Google+, on t'a jamais aimé. C'est violent, TikTokumi. C'est très très violent. Mais voilà, on en avait parlé, hein, au cours des derniers. Attention, article 13, montrer une photo de Google+, devient risqué. Et Laurent Martin, j'aime, je vis dangereusement. Si tu le savais pas encore, chez Texcope, on vit dangereusement. Voilà. Donc, justement, hein, donc ils ont fermé leurs portes virtuellement. Ils ont évité justement de le faire le 1er avril pour éviter un petit peu toutes les blagues autour de Google+. Je pense qu'on a eu le temps de faire toutes les blagues qu'on voulait autour de ce réseau social. Évidemment, ils avaient rencontré beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, pour vous refaire un petit peu l'historique, c'était donc un service qui était arrivé il y a maintenant 8 ans à peu près, hein, je crois, c'était en 2000, 2011. Toutes les personnes qui avaient un compte Google avaient d'office un compte Google+, ce qui a évidemment créé beaucoup, beaucoup de comptes fantômes avec aucune activité. C'était devenu obligatoire d'avoir un compte Google+ pour pouvoir commenter, notamment sur YouTube. Voilà, ils voulaient vraiment se lancer sur l'aspect social, mais ils l'ont fait sans aucun respect des utilisateurs, en leur créant des comptes sans qu'ils les demandaient et en bloquant certaines fonctionnalités. Donc, ça a été très très mal perçu. De plus, l'usage était assez obscur et clairement, ben voilà, le virage du social a vraiment été loupé en ce qui concerne Google. Et d'ailleurs, ça avait été reconnu, hein, par Eric Schmidt, CEO de Google. Il l'avait mentionné, hein. Je savais clairement que je devais faire quelque chose, mais je n'ai pas réussi à bien le faire. Un PDG doit prendre ses responsabilités. J'ai merdé. Clairement. Je pense que c'est un peu le constat qu'on peut faire de Google+. Il y avait des bonnes idées, mais ils n'ont pas réussi à trouver clairement leur positionnement et à quel problème ils souhaitaient répondre. Voilà, il y avait quand même de nombreux problèmes liés à ce réseau social. Moi, j'ai eu un compte Google+. D'ailleurs, il faut que j'enlève le lien sur mon blog de musique. J'avais un compte Google+, ouais. Alors, je lis un petit peu les commentaires. Et comment commenter maintenant? Les comptes vont juste être des comptes Google. Techni Savoir, ça fait un petit bout de temps, hein, qu'ils ont levé la restriction des comptes Google+. Maintenant, c'est juste Google, ouais. C'est juste Google. Dommage, j'y allais un peu, mais ma mère me partageait des photos avec ça. Alors, à savoir, Google+ est terminé, mais tous les autres services de Google, hein, ne sont pas affectés, hein. Donc, tout ce qui est Google Photos, etc., fonctionne encore. Donc, si ta mère, par exemple, souhaite te partager des photos et qu'elle utilisait Google+, c'est peut-être qu'elle avait un Android phone et qu'elle utilisait Google Photos. Et donc, dans ce cas, il y a d'autres moyens de te partager les photos sans trop, trop perturber ses habitudes. Donc, peut-être à voir, à jeter un œil de ce côté-là. Jamais utilisé, ça ne m'a jamais donné envie de tester. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop trop de questions, hein, sur est-ce qu'on regrette ou pas. J'espère juste que pour ceux qui avaient un compte Google+, vous avez fait attention de bien récupérer vos données. Comme la suppression des données va prendre un petit bout de temps, je crois qu'on peut encore essayer de voir si on a accès à son compte pour ou en tout cas récupérer le contenu. J'ai vu des articles qui mentionnaient que c'était encore potentiellement faisable, donc dépêchez-vous, mais ce sera bientôt plus du tout accessible. En plus, ils avaient découvert, donc c'est ce que je voulais vous mentionner, on en avait parlé en décembre, hein, comme quoi ils avaient accéléré la fermeture de Google Plus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert une faille dans l'API de Google. Donc ça, c'était assez problématique également. Et donc, ils avaient précipité, normalement, c'était prévu pour août 2019, et ils ont précipité justement la fermeture en raison de ces problématiques de sécurité. Donc en plus, c'était un peu... Voilà, ils prennent la décision de fermer et en plus ils doivent avancer la date de fermeture. Oui, maintenant elle le fait par Google Photos, bah tu vois, voilà. Je pense que beaucoup ont appris que ça existait le jour de sa mort. Je pense même pas à Edmund Soon parce que voilà, les articles sont très succincts et expliquent même pas trop de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'était, sa vie. Voilà les grands événements de Google Plus, les grandes étapes de son développement. Voilà, donc non, les articles ne s'attardent pas trop, non. On n'en parle plus beaucoup. Quelles données il y aurait à récupérer? Ben Chris, tout ce que tu as pu publier sur le réseau social, que ce soit les photos, les posts, etc. Hein, donc il y a quand même des choses. Voilà, donc c'est la fin officielle de Google Plus pour le grand public, c'est fini. RIP, on aura versé la petite larme, pas trop non plus, mais on aura quand même versé la petite larme pour Google Plus. On va passer à l'article suivant qui m'intéresse particulièrement parce que j'étais pas, comme je suis pas dans la communauté scientifique, etc., je n'étais pas du tout au courant de ce type de pratique, mais ça m'étonne pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les sites Sci-Hub et LibGen, qui sont des bibliothèques d'articles scientifiques, mais pas que, hein, pour LibGen, il n'y a pas que des articles scientifiques, mais là on va plutôt s'intéresser via l'angle articles scientifiques disponibles sur ces grandes bibliothèques en accès libre. Voilà, ce sont évidemment des articles piratés, qui ont été piratés sur d'autres plateformes, qui sont mis à disposition illégalement sur LibGen et Sci-Hub. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, le 30 mars, pardon, le 7 mars, un jugement du tribunal de grande instance, hein, de Paris a ordonné aux fournisseurs d'accès Internet, Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR, de bloquer l'accès à Sci-Hub et LibGen, qui donc, comme je disais, proposait des bibliothèques d'articles scientifiques piratés en accès libre et gratuit. Normalement, comme on sous-entend via cette information, eh ben, ces articles sont en accès payant derrière des paywalls sur d'autres plateformes, des éditeurs de ces articles. Donc les FAI doivent prendre toutes les mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français. Ça comprend également les sites miroirs. Donc ce qu'on appelle les sites miroirs, c'est le site accessible sous un autre nom de domaine. Donc ça aussi, ça doit être bloqué. Et ce, pendant un an. Voilà. Donc les FAI restent libres de choisir la méthode du blocage, mais en tout cas, ils doivent bloquer. La décision fait suite à une plainte qui a été déposée par les éditeurs Elsevier et Springer Nature, donc deux des plus importantes multinationales de l'édition scientifique. La première, donc Elsevier, a à peu près 2960 revues et 48 300 livres et travaux de référence, hein, sur sa plateforme Science Direct. Et puis on a également pour Springer Nature 3 000 revues, 13 000 ouvrages scientifiques et 300 000 articles publiés chaque année. Donc voilà, comme je le disais, ces deux plateformes sont payantes du coup, c'est pour ça qu'ils voulaient un petit peu tacler Sci-Hub et LibGen qui mettaient à disposition librement et gratuitement le contenu scientifique. Et vous allez me dire, bah oui, c'est normal, etc. C'était du contenu disponible illégalement, etc. Oui, mais attention, ça c'était en effet des documents obtenus par des moyens soit légaux, parce qu'on avait partager des identifiants à ces plateformes d'accès et qui permettaient de télécharger les articles, soit illégaux, soit semi-légaux, hein, ça dépend, enfin il y a plusieurs types de méthodes. Et ça permettait surtout aux étudiants du monde entier qui n'ont généralement pas forcément les moyens hein, de se payer les accès aux articles. De pouvoir accéder aux travaux des chercheurs. Pour rappel, le prix, donc moi j'étais pas du tout au courant, hein, donc j'ai appris un petit peu les pratiques là. J'en avais un peu entendu parler, mais je connaissais pas les détails. L'accès à un article peut coûter de 30 à 35 dollars. Donc imaginez l'accès à un article. Évidemment, les étudiants, eux, ne peuvent pas forcément le permettre. Pour revenir un petit peu en arrière, SciHub a été fondé en 2011 par Alexandra Elbakian, qui était à l'époque étudiante en neurosciences. En neurosciences, pardon, je fais des anglicismes. Le site revendique aujourd'hui 70 millions d'articles piratés. LibGen, quant à lui, est plus récent et il recensait 2,7 millions de livres et 58 millions d'articles en 2018. Voilà. Et ça fonctionne, hein, évidemment, c'est connu du monde entier. Beaucoup, beaucoup de personnes utilisent ces plateformes. Les éditeurs, eux, sont évidemment pas contents et essayent de faire la guerre, justement, à ces sites. Et c'est pas la première fois qu'il y a des demandes de blocage, hein. En octobre 2015, les URL principales de SciHub et LibGen sont fermées suite à une décision de justice du tribunal de New York. En 2017, c'est le tribunal de Virginie qui donne également raison à l'américaine Chemical Society et ordonne à SciHub de payer hein, des sommes, donc là 84,8 millions de dollars d'amende. La même année, c'est une plainte de l'éditeur Elsevier qui oblige plusieurs plateformes à verser une amende de 15 millions de dollars hein, pour atteinte aux droits d'auteur. Ces décisions de justice ont peu d'influence sur ces sites car et notamment voilà sur je pense c'est SciHub car en fait il est hébergé à Saint-Pétersbourg où la législation américaine n'a aucune prise et pareil pour LibGen hein, il a été bloqué par exemple par la FAI britannique en 2015 par décision de justice. Il n'y a pas vraiment eu de réelles conséquences car il est hébergé entre la Russie et les Pays-Bas. Donc idem, là c'est très très compliqué d'appliquer les décisions de justice. Par contre en novembre 2018, là c'est le tribunal fédéral russe des télécommunications qui a donné à son tour raison au duo d'éditeurs Elsevier Springer en ordonnant le blocage des sites, mais qui ont là aussi ressuscité sous d'autres noms. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein, ou de Whack-a-Mole, où tu essayes d'attraper là, mais en fait ça réapparaît ici, ça réapparaît de l'autre côté, etc. Donc c'est un peu la problématique de est-ce que ces décisions de justice de blocage de ces sites internet est réellement efficace ? Eh ben en fait on peut vraiment se poser la question. Il y a beaucoup beaucoup de méthodes pour contourner les blocages de ces décisions de justice. Donc je vais pas forcément vous les donner là dans l'émission parce que le but de TechScope c'est pas de vous dire comment enfreindre les décisions de justice, mais pour ceux qui se posent la question, c'est très facile de le faire. Mais en plus au-delà de ça, de trouver un moyen pour contourner. Ce qui est intéressant, c'est plusieurs utilisateurs de Twitter ont rappelé aussi que les chercheurs de la recherche publique française, a priori, ne subiront probablement pas les conséquences du blocage, car ils utilisent des fournisseurs d'accès à Internet particuliers comme Renator. Je ne sais pas si je le prononce bien, donc je m'excuse si je le prononce mal. Mais en effet, ils utilisent des FAI particuliers et notamment au boulot. Pour les étudiants, c'est un peu pareil car ils peuvent accéder à Internet depuis leur université via EduroAM. Voilà. Donc, est-ce que ça va être utile ? Est-ce que ces FAI vont être concernés ? A priori, ils ne font pas partie de la liste mentionnée par la décision de justice. Donc, a priori, les étudiants et les chercheurs de la recherche publique française, eux, ne seront pas impactés. Ah ben justement, Nebjix, tu travailles chez Renator. Donc, est-ce que tu peux me confirmer que ce que je dis, c'est pas une grosse bêtise ? L'article a l'air sérieux, mais... Il en faut des sites comme ça. Imaginez un monde où tout savoir est payant. Edmund Soon, justement, on va arriver sur la pertinence ou pas de ce modèle économique pour les éditeurs. Et donc, on peut se poser, du coup, la question qu'on se pose, et c'est celle que tu étais en train de se poser, est-il vraiment illégal de diffuser gratuitement du savoir? Et donc, justement, hein, c'est un grand débat. Évidemment. Quand même, pour se donner une idée, 85% des articles qui sont disponibles sur Sci-Hub sont habituellement protégés par un paywall. Voilà. Ça, évidemment, de les mettre à disposition gratuitement pour des personnes va représenter un manque à gagner hein, pour Elsevier et Springer, car ils monétisent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc je m'étais un peu trompée sur les prix. Ils monétisent des articles aux alentours de 30 dollars. J'avais dit 30, 35 dollars, mais aux alentours de 30 dollars, donc ça représente 25 euros à peu près. Et donc, d'un point de vue légal, oui, évidemment, c'est illégal de mettre à disposition du contenu. Mais d'un point de vue éthique, on peut vraiment, vraiment se poser la question de l'accès au savoir. Et donc, en fait, ce qui est un petit peu absurde, c'est le secteur de l'édition scientifique et comment ils monétisent. Donc là, pour faire une petite explication de comment ça se passe, lorsqu'un scientifique ou une personne, un chercheur, souhaite faire connaître ses travaux, un chercheur du secteur public, il doit évidemment le soumettre à des revues scientifiques, aux revues scientifiques les plus prestigieuses, dans l'espoir d'avoir une peer review, une validation d'un pair pour vérifier la solidité des résultats. C'est une pratique qui se fait couramment dans de nombreux, nombreux domaines. Ceux qui sont ingénieurs, etc., le connaissent également. La pratique de la peer review est assez répandue, mais voilà, dans le monde scientifique, qu'il va falloir essayer d'atteindre ces publications, ces revues scientifiques, dans l'espoir d'avoir une peer review et une éventuelle publication. Et donc, pour pouvoir passer cette étape, souvent, le chercheur va payer. Voilà. Et les fameux pairs qui vont vérifier les travaux sont, eux, bénévoles. Donc, à la fois, le chercheur qui a fait ce travail ne va pas monétiser son article, mais en plus, il va devoir payer pour espérer avoir une peer review de quelqu'un qui va bénévolement faire cette peer review. Voilà. Et donc, lorsque l'article est accepté, le chercheur va également s'engager à abandonner tous les droits d'exploitation de son travail à la revue. Donc voilà, ça c'est quand même à savoir. C'est là que ça devient intéressant. Et quand on regarde de plus près les revues les plus prestigieuses aujourd'hui, elles sont réparties en 5 groupe d'édition qui forme donc voilà un monopole assez impressionnant. Donc on retrouve les fameux Springer, Reed Elsevier, Wiley Blackwell, Taylor et Francis et Sage. Voilà, donc voilà pour le groupe de ces éditeurs. Et donc ces éditeurs vendent évidemment leurs revues et leurs journaux aux chercheurs qui peuvent se les payer via des abonnements assez chers aux laboratoires privés, aux universités, aux instituts de recherche publique, etc. Voilà, avec des abonnements qui sont quand même coûteux. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans un cercle un poil vicieux quand même, parce que du coup, le chercheur, après avoir payé pour soumettre son travail et avoir abandonné hein, ses droits d'auteur, il devrait également payer pour consulter son propre travail. Voilà, et l'éditeur, lui, se contente de mettre à disposition et de bénéficier de sa réputation de publication. Et donc, en plus, le travail, généralement, est financé dans 92% des cas par la recherche publique. Donc on se demande un petit peu qui fait son beurre dans l'histoire. Voilà, ça vous donne un petit peu des informations. Donc c'est là où c'est pas aussi simple que ça de se dire c'est tout à fait normal que les plateformes Sci-Hub et LibGen soient interdites et bloquées. C'est là où il faut voir un petit peu plus les pratiques et le marché voilà, dans le monde scientifique. Donc je voulais prendre un petit peu le temps hein, de vous exposer comment ça fonctionnait pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Parce que moi, par exemple, je n'étais pas au courant et j'ai trouvé l'article particulièrement intéressant. Le système de la publication universitaire est une arnaque au profit de quelques éditeurs qui se gavent sur le dos des chercheurs. Le tout financé par des fonds publics. Bruno, tu as bien résumé. Tu as bien résumé l'article, voilà. Donc je voulais pas forcément porter de jugement, mais en tout cas je voulais vous montrer un petit peu un angle un peu plus large que juste l'angle de la décision de justice. L'État paye pour la recherche. Payer pour la paye pour la publication et paye pour accéder aux articles. Ouais. C'est pas que l'État hein, qui paye, il y a aussi les chercheurs justement qui payent. C'est là où c'est quand même assez sans dessus dessous quoi, on va dire. De plus en plus d'universités se désabonnent de grandes revues car elles sont trop chères. Oui, il y avait Harvard notamment qui avait pris la décision de se désabonner. Et justement, c'est pas mal que de grandes universités renommées prennent position sur ce genre de choses. Voilà. Et on peut vraiment se poser la question de la pertinence et de l'éthique sur l'accès libre à la connaissance ou pas. Voilà pour l'article, vraiment une problématique vraiment passionnante et c'est chouette qu'on voit ce genre d'enjeux remonter dans les news. C'est vraiment des axes qui sont très très intéressants. Je vous propose de continuer et de continuer avec Twitter ce matin. On va parler rapidement de Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous le savez, hein, depuis plusieurs mois, je vais faire une pause, hein. Je bois un petit peu mon thé. Je vous dis, il faut que je reprenne les bonnes habitudes, que je retrouve mon rythme de Techscope, alterné entre articles, thé. Les doctorants utilisent tous Sci-Hub et LibGen, ouais. Heureux de voir que le traitement de ce sujet est parfaitement exact et précis, c'est rare dans ce domaine. Bah, Philippe, voilà, j'y connaissais rien, mais ce sujet me tenait à cœur, donc je voulais faire attention de le traiter d'une manière un peu plus ouverte. Merci pour ton commentaire. Le plus drôle là-dedans, c'est que Elsevier continue de grimper en chiffre d'affaires. Oui. Évidemment, ça va aussi par le volume et l'augmentation des prix. Sci-Hub est un phénix, pas d'inquiétude. Oui, c'est ce que je disais. Voilà, la décision de justice, en effet, elle va rendre. Enfin, elle fait fonctionner les lois et on ne peut pas aller à l'encontre, en effet, des lois. Après, est-ce que la méthode employée va être vraiment problématique? Non, je ne vous ai pas donné les moyens de contourner, mais voilà, je vous mettrai l'article dans les articles du Flipboard et vous verrez que dans l'article, ils listent toutes les méthodes possibles en vous donnant des tutos sur comment y accéder. Donc, si vous souhaitez vous renseigner et pouvoir contourner un peu les restrictions, il y a vraiment pas mal de méthodes. Et en plus, ceux qui sont visés potentiellement utilisent des FAI qui ne tombent pas dans la décision de justice. Donc, eux, ils auront toujours accès via leur université ou la connexion Internet de leur travail. Donc, voilà, c'est vraiment à mesurer, quoi. Tout à fait, Bruno. Donc, on enchaîne avec Twitter. Twitter qui, depuis des mois, évidemment, lutte contre les propos qui ne respectent pas les conditions d'utilisation de la plateforme. Ils vont évidemment prendre des mesures hein, pour sanctionner les comptes qui enfreignent les règles d'utilisation. Et donc, quand ils sanctionnent, potentiellement, ils vont rendre inaccessible le compte pendant un certain temps, rendre inaccessible le tweet, évidemment, etc. Et dans certains cas, évidemment, on veut pouvoir protester et faire une réclamation suite à cette décision et à cette comment dire sanction de Twitter, car des fois ben voilà, Twitter peut se tromper, c'est comme la politique de flag chez YouTube où voilà, YouTube peut se tromper et alors qu'il va flaguer automatiquement une vidéo. Et donc enfin aujourd'hui, c'était quand même assez compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, c'était quand même assez compliqué de faire une réclamation lorsqu'il y avait un problème. Car en fait, c'était un peu caché dans un formulaire sur le site de Twitter et il fallait un petit peu le trouver. Et c'était pas forcément très très facile, quoi. Voilà. Et ben maintenant, c'est possible de le faire directement depuis l'application Twitter en elle-même. Et ça, c'est plutôt bien foutu. Voilà, donc Twitter en plus va pouvoir revenir plus rapidement, 60% plus rapidement aux utilisateurs. Et donc le traitement des demandes va se faire de manière plus efficace. Donc ce qui va se passer, c'est que Twitter va afficher le tweet qui a déclenché la sanction. Et il va également informer de la raison de la sanction, parce que des fois, c'est pas forcément évident quelles règles, quelles conditions d'utilisation on a en frein avec les propos et pourquoi ça a déclenché une sanction. Donc là, il va préciser également la raison du blocage il y aura également une description de la règle en question et un lien vers les conditions d'utilisation. Donc ça, c'est quand même assez bienvenu. Sur l'écran suivant, les utilisateurs vont pouvoir choisir soit de supprimer le tweet, soit de faire une réclamation hein, suite à ce ban. Évidemment, la réclamation va devoir être traitée par Twitter, mais voilà, dans tous les cas, vous avez accès au tweet. Si vous trouvez que ça prend trop de temps et que finalement, bah, vous voilà, vous préférez supprimer le tweet pour récupérer votre compte plus rapidement, et ben, vous allez pouvoir le faire à tout moment. Voilà. Donc, j'essaie de voir si y a une petite démo peut-être. Voilà, hop. Donc là, vous avez l'écran justement avec le tweet et l'explication. Ensuite, vous pouvez faire une réclamation. Voilà. Donc voilà, avec la petite image, c'est quand même assez efficace. Donc du coup, vous pouvez commencer le process, soit décider de supprimer le tweet, soit de faire une réclamation et d'expliquer des fois le contexte du tweet. Parce que des fois, c'est juste une blague ou dans un contexte autre, etc. Bref, voilà, ça peut, il peut y avoir un peu plus de choses. Donc c'est quand même bienvenu. C'était quelque chose qui avait été longtemps critiqué justement par les utilisateurs de Twitter, le manque de souplesse et d'accès aux réclamations pour traiter les demandes des utilisateurs. Là, voilà, on sent que Twitter fait vraiment attention pour satisfaire les utilisateurs. On enchaîne avec Amazon et son assistant Alexa qui va voir arriver la concurrence sur le marché des courses faites par assistant vocal. Vous savez qu'Amazon est quand même leader sur le secteur hein, en termes de plateforme e-commerce et avec son assistant vocal, même s'ils n'ont pas le plus de devices, hein, c'est-à-dire que c'est quand même Google qui a le plus d'appareils aujourd'hui et qui peut être présent sur le maximum d'appareils, puisque en plus en téléchargeant l'application, vous pouvez même bénéficier du Google Assistant sur les iPhones, etc. Donc c'est quand même Google qui a accès au plus d'appareils, mais c'est quand même Amazon qui a pris les devants sur l'assistant vocal, sur l'e-commerce, etc. Et du coup, là, Google s'est associé à Walmart, la chaîne de magasins, pour pouvoir faire un partenariat et permettre aux utilisateurs de Google Assistant de faire leurs courses avec l'assistant vocal de Google directement. Alors, ce qui est intéressant, c'est un peu à la manière d'Amazon, c'est-à-dire au fur et à mesure où vous allez utiliser l'assistante. Eh ben, il va pouvoir connaître vos préférences. Par exemple, au début, la première fois que vous allez commander, vous allez dire une brique de lait de 1 litre, eh ben, il va potentiellement vous demander est-ce que c'est du lait demi-crémé, quelle marque vous préférez, etc. Et puis après, il sera capable de se rappeler vos préférences. Donc, vous n'aurez pas forcément à répondre aux mêmes questions à chaque fois. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et vous, potentiellement, il vous dira, si vous dites acheter une brique de lait, il vous demandera une brique de lait de la marque Intel demi-écrémée. Et là, vous direz oui. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement le process, mais ça va devenir de plus en plus smart, justement, pour pouvoir plus correspondre à vos besoins et à votre profil d'acheteur, tout simplement, et à vos habitudes d'achat. Là où on peut se poser des questions, c'est qu'aujourd'hui, la pratique de faire ses courses via commande vocale, pas forcément, je veux dire, Amazon n'a pas craqué le système, quoi. Je veux dire, pour tout ce qui est non périssable, type mouchoir, voilà, brosse à dents, sopalin, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, produits de beauté, etc. Voilà, à la rigueur, vous connaissez vos produits, vous connaissez les marques, c'est plus facile de commander par commande vocale et de commander en ligne. Par contre, on a vu hein, que pour tout ce qui est périssable, par exemple fruits, légumes, viande, yaourt, etc., et ben là, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les personnes de vouloir commander en ligne. Et le next step, c'est de commander par commande vocale. Donc là, à voir si ça va, si les habitudes, tout simplement, des acheteurs vont évoluer ou pas. Après, il y a un temps d'adaptation et un temps d'adoption aussi de ces nouvelles technologies. Donc on peut voir, mais pour l'instant, il n'y a pas un gros boom hein, dans l'usage. Imagine, tu commandes une voiture avec la voix, ça serait marrant. Oui, je doute que tu puisses acheter une Tesla, par exemple, avec Alexa ou Google Assistant, quoi, tu vois. C'est un montant, voilà. Puis après, il y a des options, etc. Enfin bon, pour des petits montants, oui. Pour les gros montants, on sera sur autre chose, quoi. Mais voilà. C'est assez intéressant. On rappelle aussi quand même qu'Amazon a quand même racheté Whole Foods, hein, donc pour une acquisition de 13,7 milliards de dollars en 2017. Donc là, on est vraiment sur la course aux courses, la course au shopping entre Amazon et Google, sachant qu'Amazon a quand même une longueur d'avance puisqu'ils étaient déjà sur le secteur e-commerce. Alexa, commande-moi une Lamborghini, ouais, c'est ça. Tout à fait. Faudra bien faire attention aux conditions de retour hein, et de remboursement. Donc voilà, voilà, la concurrence commence à s'intensifier du côté de Google. Et puis, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Nantes, de la ville de Nantes en France. Nantes qui n'a pas forcément vu d'un bon œil la petite tentative de Wind qui s'est passée ce week-end. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce dimanche 31 mars, il y a des utilisateurs qui ont pris des photos hein, dans la ville de Nantes et qui ont remarqué la présence de trottinettes Wind dans leur ville. Eh ben en fait, voilà, elles n'étaient pas forcément prévues et la mairie, en tout cas la métropole, n'était pas forcément au courant de cette mise en place des trottinettes. Et donc ils ont tout simplement publié un communiqué de presse informant que toutes les trottinettes ont été récupérées et stockées à titre conservatoire. Donc voilà, ça a été publié ce mardi 2 avril, hein, donc hier. Et donc, impossible maintenant de trouver une trottinette Wind dans la ville de Nantes, quelques jours seulement après leur lancement. En effet, donc, comme je vous disais, hein, la mairie a expliqué que le déploiement s'est fait sans aucune sollicitation de la mairie ou de la métropole de Nantes. Et donc, du coup, il n'y a eu aucun échange, aucun accord et donc aucune autorisation de prévu pour ce déploiement. Et donc, du coup, voilà, c'est quand même un peu... Voilà, c'est pas la première fois, hein, ça arrive dans beaucoup de villes. Vous l'avez vu, hein, à Paris, pour les Parisiens, les trottoirs, les parcs sont infestés de trottinettes. Ce week-end, j'ai profité du week-end ensoleillé là pour faire la touriste à Paris. Et on se balade dans les parcs, il y a une trottinette abandonnée en plein milieu du chemin, quoi. Je veux dire, non mais. Enfin voilà, ça déclenche en plus des comportements enfin, inciviles, assez agaçants, où les gens ont aucune considération pour les passants, les piétons. Enfin, ça peut provoquer des accidents et être potentiellement assez dangereux. D'ailleurs, Jérôme avait partagé dans ses stories une photo des trottinettes qui s'étaient fait bousculer par une voiture et complètement étalées par terre. Donc voilà. Et c'est pas la première fois que Nantes hausse le ton hein, par rapport à ce genre de pratique, puisqu'en octobre 2018, c'était envers Pony Bikes qui avait essayé d'installer ses vélos en libre service dans la ville sans prévenir qui que ce soit. Et donc du coup, hein, les services municipaux avaient leur demandé leur retrait sans tarder. Voilà. Et donc du coup, le maire s'était exprimé, hein, Thomas Kéros s'était exprimé sur le sujet. Il avait dit qu'il ne souhaitait pas que le free floating se fasse n'importe comment. Et là, à la rigueur, je suis vraiment assez d'accord avec cette déclaration. C'est-à-dire que quand je vois ce qui se passe et les débordements qu'il y a à Paris, ça peut déclencher des situations un peu dangereuses d'avoir ces vélos, ces trottinettes, etc. en free floating sans avoir d'espace prévu pour un nombre d'appareils limités, parce qu'après, il y a voilà, les trottoirs, les rues qui sont encombrées hein, par un trop grand nombre d'appareils. Donc, il y a tout ça qui est aussi à prendre en compte, quoi. D'autant plus que l'occupation du domaine public est normalement payante. Oui, bah justement, il y avait la mairie de Paris qui compte notamment les taxer les sociétés de free floating en fonction du nombre d'engins qu'elles déploient dans la ville. Voilà. Donc ça évitera pas l'encombrement des rues, mais ça va en tout cas apporter de l'argent à la ville. Et c'est tout ça, c'est en attente du projet de loi mobilité hein, qui comporte un article qui va permettre potentiellement de réguler un petit peu la mise en place de ces appareils en libre service. Donc à voir, car la promulgation peut prendre un peu de temps. On n'y est pas encore et elle est encore en discussion au Parlement, mais il va y avoir des choses qui vont bouger du côté de ces pratiques d'appareils en free floating. Voilà. En tout cas, Nantes s'est montrée ferme. à ce sujet. Mais je trouve ça assez hallucinant que les boîtes, ça ressemble un peu aux pratiques d'Uber, hein, mais que les boîtes ne songent même pas à enclencher un débat ou une discussion, un échange avec, avec la métropole ou la mairie, quoi. Je trouve ça assez fou. À Paris, ils comptent aussi mettre un PV à ceux qui garent mal une trottinette. Ça va être compliqué, hein, parce qu'ils n'auront pas accès aux données des utilisateurs, je suis pas sûre, enfin je sais pas comment le PV va être adressé quoi. Il faudrait avoir une communication entre les personnes qui veulent éditer les PV et la plateforme en elle-même pour pouvoir bien cibler quel utilisateur a mal garé sa trottinette quoi. Et puis si ça se trouve, la personne a bien déposé sa trottinette, quelqu'un l'a juste pousser la trottinette sans l'utiliser. Et donc là, le PV, il va tomber sur le dernier utilisateur sans que ce soit lui qui ait fait le mauvais placement. Donc il y a plein de cas et d'écueils qui vont pas être efficaces à pallier. C'est pas un sujet simple. Je vous propose de terminer sur le sujet caca du jour, puisqu'on va parler un petit peu science ensemble, science et espace. Et là, il s'agit de quoi? Tout simplement, c'est un projet de la NASA. La prochaine exploration lunaire est prévue pour 2024 et l'agence potentiellement se demande si elle n'irait pas récupérer les déjections humaines qui ont été abandonnées sur la Lune. Sympa, ragoûtant. Donc il s'agit en détail, parce qu'on aime bien détailler ça le matin pour commencer la journée, de 96 sacs d'urine, de matière fécale et de vomi. Bon appétit pour ceux qui déjeunent, qui petit-déjeunent. Voilà, donc 96 sacs de fluides sympathiques qui se trouvent sur la Lune et qui font évidemment partie des nombreux éléments matériaux humains qui ont été un petit peu abandonnés sur l'astre. Voilà. Et donc la NASA potentiellement pourrait récupérer ça et la mission pourrait même arriver plus tôt que prévu mais voilà donc ça serait à peu près en 2024. Alors pourquoi vous allez me dire mais pourquoi on va essayer de récupérer ces sacs? Il n'y a pas à dire le Texcope nous avait manqué pendant un mois, n'est-ce pas? On fait vraiment des sujets complets hein. On peut pas en faire un compost. Probablement aussi pour voir si les microbes se sont développés ou sont morts. Eh ben, casque à cornes, tu as tout juste, tout à fait. Eh ben, en effet, l'idée, c'est de vérifier et de voir si toutes les petites bactéries, alors pas toutes, mais si certaines bactéries que l'on éjecte dans nos déjections, etc., si certaines bactéries ont réussi à survivre, puisqu'à savoir Voilà, les selles humaines sont composées quand même à 75% d'eau et 25% de matière solide. Voilà, parce qu'on aime bien les détails hein, quand même dans Texcope. Et donc, les matières solides sont quand même composées de matière organique et composées de 25 à 54% de cellules microbiennes. C'est là que ça devient intéressant. Ces cellules microbiennes, hein, 25 à 54%, peuvent être mortes ou vivantes. Donc a priori, les bactéries constituent 6 à 13% de nos selles. Et donc il faut faire la distinction entre celles qui sont viables, celles endommagées ou mortes. Les biologistes, eux, estiment que les bactéries viables constituent seulement 3 à 6% de la matière fécale humaine. Et voilà. Et donc là, le test, parce que quand même, il y a 1000 espèces différentes de bactéries hein, qui peuplent nos intestins. Donc si vous ne le saviez pas. Voilà, et donc la chose assez intéressante, c'est de tester s'il y en a dans les conditions d'être présent sur la Lune, si certaines bactéries ont réussi à survivre dans ces conditions extrêmes. Conditions extrêmes parce qu'en effet, il y a quand même le rayonnement solaire qu'il faut prendre en compte, des températures quand même extrême, voilà, donc il y a l'irradiation ultraviolet et température extrême sur la Lune. En plus, il n'y a pas de champ magnétique ou de couche d'ozone pour protéger tout ça. Donc, a priori, il y a de fortes chances, et les scientifiques s'accordent sur cette hypothèse, il y a de fortes chances qu'aucune bactérie n'ait réussi à survivre. Mais si on prouvait le contraire, et ben, potentiellement, ça ouvrirait la voie à des études plus fouillées sur comment ces bactéries peuvent continuer à survivre et qu'est-ce qui s'est passé, quel système elles ont utilisé pour réussir à survivre. Donc ça va être quand même assez intéressant. Donc voilà comment rendre intéressant les déjections humaines. Voilà, ces scientifiques sont fous, mais heureusement qu'on les a. Le prochain voyage donne l'occasion de tester ça. On ne retourne pas sur la Lune juste pour ça. Non, Émilie Marie, généralement une mission en plus a plusieurs objectifs, avec un objectif primaire et puis d'autres objectifs secondaires. Donc je ne pense pas qu'ils vont organiser l'expédition en 2024 juste pour récupérer les 96 sacs. Voilà. Je vois déjà la une, Neil Armstrong est mort, mais son caca a survécu, ouais. Voilà, c'était le dernier article du jour. J'espère que l'émission vous a plu. Il est 8h52, je suis complètement dans les temps. Je vais regarder s'il y a une question platinium au cas où. Mais a priori, il n'y en a pas. Donc du coup... Donc du coup j'espère, enfin c'est le moment, voilà, Samuel me confirme qu'il n'y a pas de questions platinium. Si vous avez des questions, que ce soit en rapport avec les sujets ou autre chose, allez-y, c'est le moment de poser vos questions. Je vais m'efforcer d'y répondre si j'ai la réponse. Donc est-ce que vous avez des questions ce matin? Merci beaucoup Samuel pour partager les liens. Il devrait y avoir une nouvelle vidéo qui arrive sous peu. Et du coup, au lieu d'offrir des roches lunaires, ils auront un cadeau original à offrir. Tout à fait. Feedly, tu l'utilises? Oui. Sultan, tout à fait. Feedly, je l'utilise beaucoup. Beaucoup, beaucoup pour faire ma veille tech et ma veille musique. Voilà, et ma veille design aussi, enfin, mais bon, j'ai 36 sources pour ma veille design. Mais en effet, je suis pas mal de publications et de flux RSS que je mets dans Feedly et qui me permettent d'agréger toutes mes sources préférées dans un même endroit. Donc oui, j'utilise beaucoup Feedly. Je l'ai sur mon iPad, sur mon ordinateur, sur mon smartphone. Ça fait partie un peu de mes applications incontournables. Est-ce que vous avez acheté des produits tech au Vietnam? Non, on n'a pas acheté du tout de produits tech au Vietnam. On a acheté des sucreries, des caramels coco, au sucre de coco. Voilà, donc on a acheté ça parce qu'on a visité la fabrique. On a acheté du sucre de palmier. aussi, parce qu'on avait vu comment c'était extrait, on avait visité aussi les personnes qui avaient fait ça, mais on n'a pas acheté de produits tech. Non, mais attendez, on était en vacances, quoi. Qu'est-ce qu'on va acheter des produits tech? Marion, penses-tu que nous serions les descendants de sacs à caca oubliés par des extraterrestres? ADAD, c'est intéressant. Dans mon antécédent de la famille, je vois personne qui aurait, qui serait allé dans l'espace. Mais j'aurais bien aimé. Mais j'en sais rien. Va-t-il y avoir une amélioration du clavier AZERTY? Le layout officiel va changer. C'est Hafnor qui l'a annoncé. J'ai pas vu cette information, Edmond. Ça va être intéressant, mais j'ai pas vu ça. Est-ce que ça va être juste une recommandation? Parce qu'alors après, il y a la mise en application et changer les habitudes. Ça va pas être si facile que ça, hein, même si il sera prouvé plus facile d'utilisation. Changer les habitudes des gens, ça va être compliqué. Hein. Mais j'ai pas vu cette news. Il faut que je regarde. Ce retour dans le brouhaha parisien n'a pas été trop dur. Ben écoute, ça va. Là, ça va. Ça fait une semaine. Je pense que surtout le fait qu'il ait fait beau les premiers jours de notre retour a facilité aussi notre retour. Le fait de savoir qu'on est au printemps, qu'on n'est plus en hiver, ça rend les choses quand même plus faciles. Donc, ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu as vu le bug qui touche les abonnements YouTube Premium, lecture arrière-plan impossible et pub? Ah non, j'ai pas vu. Bah, je suis pas abonné YouTube. Hein. Enfin, abonné YouTube Premium. Donc, en effet, moi, j'ai pas vu le bug. Mais c'est un peu gonflé. Content de te et vous retrouver. Bah, on est ravis aussi de vous retrouver hein, quand même. Hein. As-tu fait tes sauvegardes? Eh bah, écoute, dans un sens, oui, parce que j'ai sauvegardé mes photos du voyage. C'est déjà une bonne étape. Maintenant, il faut que je mette un peu de l'ordre sur comment je gère les photos, parce que j'utilise toujours Aperture qui n'est plus mis à jour. Donc, il faut que je fasse ça. Et une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai pris des bonnes résolutions, il faut que je m'y mette. J'ai une question techno. Jérôme avait présenté le clavier, un clavier Logitech, le Craft avec molette. Est-ce que vous l'utilisez encore? Je ne sais pas si Jérôme l'utilise encore. Je ne peux pas te répondre. Je pense que le mieux, c'est de lui demander demain. De lui reposer la question demain. Il sera le plus pertinent pour te répondre à cette question. Un GH5 en kit Leica 1260 à 1600 euros en promo, ça vaut le coup en 2019. J'ai aucune idée des prix, je suis désolée. Là encore, je pense, Flographeur, ce sera Jérôme qui sera le plus pertinent, parce que lui aura une meilleure idée des prix. Vous avez fait cours dans une classe d'enfants, c'est dingue. Non, Tom Tom, on n'a pas vraiment fait cours, on a juste visité une école et certains profs nous ont voilà très très gentiment accueillis et ils nous ont montré comment écrire. Un prof nous a montré comment écrire nos prénoms en khmer. Voilà, donc ça c'était super. Mais non, on n'a pas fait cours. On a juste dit bonjour. On a perturbé la classe. Que penses-tu des audiophiles qui mettent un prix fou pour leur installation? Est-ce justifié? Alors là, écoute, dans la mesure où, enfin, est-ce justifié? Je dirais oui. Je veux dire, pour tous les passionnés, mettre l'argent quand ils peuvent se le permettre, dans ce qu'ils aiment, je dirais dans tous les cas, c'est justifié. Enfin, je n'irai pas juger, tu vois, les intérêts de chacun, en fait. Enfin, les passions, intérêts de chacun. Moi, par exemple, tu vois, je peux te dire quelque chose. Je suis fan de musique et je suis fan de certains artistes. Et quand j'étais plus jeune, je disais, mais c'est complètement stupide, les gens qui vont voir plusieurs fois un artiste en concert, une fois que tu l'as vu une fois, c'est bien. Eh ben, j'ai complètement changé d'avis, hein. Maintenant que j'ai les moyens de pouvoir le faire. Eh ben, je vais voir les Arctic Monkeys ou Phoenix sur chacune de leurs tournées, par exemple. Et des fois, plusieurs fois sur la même tournée. Et pourtant, vous allez me dire, mais c'est stupide. Mais en fait, non, c'est pas stupide quand tu aimes ça, en fait, quand c'est ton truc. Donc, je dirais, c'est vraiment propre à chacun. Et à la rigueur, si les personnes peuvent se le permettre, tu vois, c'est tant mieux. Est-ce que tu as préféré le Vietnam ou le Cambodge? Franchement, les deux sont top. Et c'est pas du tout la même chose. Le Cambodge, tu vois, on n'a pas vraiment fait le Cambodge, on a fait Angkor. Donc on a juste vu les temples d'Angkor, quoi. C'était un peu Jérôme et moi qui avons réalisé notre rêve d'enfant de mini Indiana Jones à courir dans les pierres, dans les vieilles pierres, quoi, et à apprendre un peu plus sur une civilisation qui n'existe plus aujourd'hui ou qui a évoluer en autre chose, sur comment les pierres étaient assemblées, qu'est-ce que ça représentait autrefois, comment ça fonctionnait, pourquoi c'était construit ainsi, la symbolique. Enfin, on est des petits fans d'histoire, donc pour nous, c'était un rêve. Au Vietnam, pareil, tu as des choses, voilà, tu as les Cham, hyper intéressant pour voir les constructions et tout, tu as les pagodes avec les symboliques, etc. Voilà, c'est pas la même chose, quoi. Ça dépend de ce que tu recherches. Après, tu vois, c'est plutôt entre le Vietnam du Sud et le Vietnam du Nord. J'avoue que le Vietnam du Sud est quand même moins impressionnant que le premier voyage qu'on a fait au Vietnam. D'abord parce que c'était le premier voyage, évidemment. On découvrait tout. Et puis parce que tu as une diversité de paysages qu'on n'a pas forcément retrouvé dans le Vietnam du Sud. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'a pas tout fait, mais voilà. Alors, il est 9h01, je vais voir s'il reste quelques petites questions. Vous aimez bien l'Asie, un jour vous passerez au Népal. Si on peut, oui. On adore l'Asie, mais il y a plein, plein de pays où on veut aller, quoi. Si tu ne pouvais faire qu'une destination, Vietnam ou Cambodge, ça dépend ce que tu recherches, JJM. Ça dépend vraiment ce que tu recherches. Si tu es un fan d'histoire et que tu rêves d'aller voir des civilisations qui n'existent plus aujourd'hui, c'est clair que Angkor ou le Pérou ou l'Égypte, etc., ou Petra, par exemple, c'est des destinations de folie, tu vois. Enfin, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai une obsession avec l'Égypte ancienne, tu vois. Jour où je vais voir les pyramides, je vais avoir des étoiles dans les yeux, tu vois. Après, si c'est pas ce que tu recherches, et que tu recherches, voilà, de visiter un pays d'Asie, de voir des beaux paysages, enfin, la cuisine est importante, etc., le Vietnam, c'est génial aussi, tu vois. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Après, moi, j'ai pas visité le Cambodge. J'ai visité encore. C'est pas exactement pareil. Je t'avais demandé à l'époque, tu n'étais pas trop intéressé par les AirPods, est-ce que tu l'es plus par les deux? Pas vraiment, Vaya. En fait, comme je ne les ai pas testés, je n'ai pas d'excitation particulière. Je crois qu'en fait, on les adopte quand on les a testés et je ne les ai pas testés, même si Jérôme me fait beaucoup de pubs pour les AirPods. Et comme j'ai encore mes Beats X qui fonctionnent très bien, ben, je n'ai juste pas envie d'acheter une autre paire d'écouteurs. Voilà. Pour moi, ça ne justifie pas cet investissement. Adé, je vais pas avoir le temps de te recommander une installation. Remarque, c'est la dernière question. Ta rencontre avec Pépé Garcia, tu l'as trouvé comment? C'était super de pouvoir enfin discuter avec lui, de le rencontrer, de pouvoir lui poser des questions naïves sans être jugé. C'est quelqu'un de super, super accessible qui va ouais, ouvert, un passionné, donc pouvoir parler, enfin, c'est toujours agréable de parler à des passionnés, quoi. Ça te fait vibrer juste de les entendre parler de leur passion, quoi. Je trouve ça génial. Et il a une passion communicative. Donc, franchement, c'était chouette. Et donc, pour le conseil de l'installation, mais Adé, je ne sais pas du tout ce que tu as. Est-ce que tu me demandes juste une platine ou est-ce que tu me demandes une platine avec un ampli et des enceintes? Parce que si c'est aux alentours de 100-300 euros, Ben, en fait, je vais peut-être te conseiller une platine qui a tout en un, quoi. Parce qu'à 100-300 euros, tu vas pas pouvoir investir dans des enceintes, en ampli, etc. Ça sert à rien. Après, c'est quoi le but? Est-ce que c'est juste pour l'idée de faire tourner tes vinyles? Et donc, la qualité du son, c'est pas la première chose que tu recherches. Parce que dans ce cas-là, en effet, tu as des petites platines un peu compactes, portables, etc., qui vont tout faire, quoi. Après, si c'est vraiment pour commencer à apprécier dans des bonnes conditions tes vinyles, il faut peut-être dans ce cas attendre un petit peu pour mettre de côté pour pouvoir avoir un premier niveau d'installation. Mais oui, il existe des petites platines portables qui te permettent de faire ça. Je parlais du cas extrême de ceux qui paient des câbles plusieurs centaines d'euros sans réel résultat audible. Tu sais, le résultat audible, enfin, le résultat, il est aussi. Tu vois, t'as le. Je veux dire, c'est comme les effets placebo, tu vois. À un moment donné, la personne, si elle est convaincue qu'il y a un effet, elle sera contente et tant mieux pour elle, quoi. Si elle veut investir dans des câbles ultra chers alors qu'en fait, avec son oreille, elle sera pas capable de faire la différence. Je veux dire, c'est leur problème, quoi. Écoutez, il est 9h06. Voilà, 9h05. T'es allé trop vite, Sultan. Il est 9h05. Je vais terminer l'émission sur cette note. Je vous remercie de m'avoir suivi durant cette émission. C'était super de vous retrouver en tête à tête. Voilà, pour cette édition de TechScope. Je vous donne rendez-vous, moi personnellement, la semaine prochaine. Mais sinon, n'oubliez pas demain matin, Jérôme, rendez-vous à 8h. Et puis, vous aurez également le jeudi VIP demain soir à partir de 18h. Pour ceux qui ont accès. Voilà. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Bye bye.